Il semblerait que plus notre société se veut rationnelle, se veut effectivement donc dans la communication, en parallèle, c'est le cas de le dire, se développe l'intérêt pour l'occultisme. Et en général, les gens qui ont suivi ce genre d'activité, qui l'ont approché, qui l'ont pratiqué, ne sentent pas très bien, effectivement, par la suite. Et je pense que vous avez dû avoir des personnes qui sont venues vous voir à ce sujet-là. Alors d'abord, il faudrait savoir pourquoi ils y vont. Curiosité, pour sortir du cadre trop rationnel, envie de se faire peur. Ils veulent pas partir faire une croisière ou une longue expédition avec un sac au dos, donc ils se font peur en fonction de leurs moyens, allant voir la carte ancienne ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Et puis après, quand même, ce n'est pas tout à fait normal et logique pour un chrétien. On n'a que Dieu et on n'a pas des petits auxiliaires plus ou moins vrais qui tournent autour.
Les motivations des personnes qui pratiquent l'occultisme sont très variables. Vous en avez cité quelques-unes. Il me semble que l'attrait de l'inconnu est quelque chose de très très présent. Je pense aussi que j'ajouterais, il y a des gens qui n'ont rien à faire, à qui on propose, tiens, ben viens, on fait une séance de spiritisme, on fait tourner les tables. Donc il y a quelque chose d'un peu différent, extraordinaire. Il y a une puissance aussi. Hein, c'est-à-dire, en fait, on est capable de faire quelque chose qui n'appartient pas à tout le monde, hein, que les vers se déplacent tout seuls, qu'il y a une écriture automatique. Il y a aussi un soulagement. J'ai rencontré, par exemple, quelqu'un qui pratiquait la décorporation, donc il quittait son corps. Parce qu'en fait, elle était tellement en peine dans son corps actuel, dans ce qu'elle vivait, qu'en quittant son corps,
Elle s'échappait.
elle s'échappait.
Mais attendez, vous dites j'ai vu, mais vous y croyez? Cette
Alors,
personne se dédoublait?
je n'ai pas vu la personne le faire, mais j'ai vu la personne plusieurs fois qui m'en a parlé.
Oui.
Hein, donc, je crois que cette personne-là, elle était allongée sur son lit. Et elle quittait son corps, elle partait, elle allait se promener ici et là. Et je pense que c'est une puissance que le monde invisible donne, qui est une puissance réelle, oui.
Donc vous pensez que c'est possible?
Oui.
D'accord, bon, je vous crois. J'ai du mal, mais je vous crois. Mais il se peut aussi que la personne ait imaginé qu'elle quittait son corps.
C'est possible.
Hein?
C'est possible. Mettons que le monde invisible est puissant. Dans la Bible, il est question très souvent du monde invisible. Par exemple, dans la Genèse, au chapitre 6, il y a ces fils de Dieu qui viennent vers les filles des hommes. Il me semble que ce sont les anges, et qui viennent vers les filles des hommes en voyant qu'elles sont belles. Et donc, il naît de leur union des puissants, des géants.
Oui.
Et il me semble que c'est les fils de Dieu, donc les anges désobéissants, donc les démons, donnent aux filles des hommes et à leurs enfants une puissance que les hommes n'ont pas dans ce que Dieu leur donne naturellement. Et ces gens-là sont capables d'une sorte d'omniprésence. Pourquoi? Parce que le monde invisible est de partout. Et donc il y a des informations qui circulent. On peut très bien dire, par exemple, avec le monde invisible, on peut très bien savoir ce que fait un tel dans sa chambre à coucher.
Oui,
Donc il y a une
une
puissance
puissance.
qui est donnée par le monde invisible. Il y a également une puissance sur les choses. La puissance de faire déplacer quelque chose, de tordre quelque chose, la puissance de blesser quelqu'un, la magie blanche, la magie noire. Hein, et donc par le monde invisible, il y a quelque chose qui attire de manière assez claire les gens. Et la Bible dit, par exemple, à l'égard de Satan, Satan, qui en grec Satanas veut dire adversaire, et Chatan en hébreu, c'est adversaire également, et diable, diabolos en grec veut dire celui qui divise. À l'égard de Satan, Jésus dit dans l'évangile selon Jean, chapitre 8 et verset 44, qu'il est meurtrier dès le commencement et suivent six caractères de Satan, trois fois deux. qui sont tous des caractères liés au mensonge. Il est menteur dès le commencement, il a le mensonge en lui, il est, etc. Et donc, ça montre à la fois le but du démon et son moyen. Et donc, le démon donne une puissance à l'homme que l'homme n'a pas, mais il a comme but de faire mal à l'homme. C'est-à-dire que l'homme rentre dans un cercle vicieux, l'homme qui consulte les esprits, dans le cercle vicieux de recevoir une puissance de la part de l'esprit, mais l'esprit va lui donner une souffrance. Et alors la réaction en général de cette personne-là, ça sera de trouver un esprit plus puissant qui va faire dégager l'esprit moins puissant, mais il ne se rend pas compte que l'esprit plus puissant lui donnera une souffrance plus grande. Et c'est comme ça qu'on aura, on entendra des coups dans la chambre, qu'on aura, on entendra des voix, qu'on aura des souffrances dans le corps, et donc il y aura ces gens qui nous diront « l'occultisme que j'ai pratiqué me hante ».
Oui, alors je voudrais quand même revenir un peu sur ce que vous venez de dire. Il y a deux aspects que je vois. Vous dites qu'il y a quelqu'un qui peut, je prends l'exemple le plus simple, arrive à un pouvoir de tordre un objet, un métal. Ouais, bon, et admettons que ce ne soit pas un coup de magie et ainsi de suite. Mais il a bien fallu que cette personne le demande à une puissance supérieure. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a eu le pouvoir de tordre un objet.
La personne que j'ai rencontrée m'a expliqué comment elle est rentrée dans un processus d'initiation.
Il a fallu qu'il soit disponible.
Oui, c'est intéressant de voir que chez les chrétiens, l'initiation se fait par ce que la Bible appelle de manière un peu curieuse, un peu surannée, l'imposition des mains, qu'on mette nos mains les unes sur les autres. Mmh. Et l'imposition des mains, ça veut dire être d'accord.
Oui.
Et donc, dans l'occultisme, c'est exactement pareil. Elle est rentrée dans un processus d'initiation. On lui a proposé de mettre un fruit sur une armoire et de mettre des cure-dents. D'attendre que le fruit se pourrisse. Et ensuite, elle s'est allongée sur le lit avec la personne qui l'initiait, en lui tenant la main. Et quand ces choses-là ont été faites, alors elle a vu. Elle est rentrée, il y a eu en quelque sorte une clé qui lui a ouvert l'accès au monde invisible.
Bon, mais là, je ne suis pas satisfait trop de la réponse. Vous m'expliquez comment ça se fait. Mais cette personne... On est venu la trouver ou c'est elle qui a demandé « initiez-moi à ».
Les deux.
Les deux.
C'est sa sœur qui l'a initiée.
Oui.
Donc ça se faisait dans la famille. Et à un moment donné, il y a eu à la fois la proposition de la sœur et la réponse de la sœur. Mais qui est-ce qui a demandé en premier? Je ne peux pas vous dire.
Oui.
Mais peut-être que la sœur, celle qui a voulu être initiée, s'ennuyait ou a vu que sa sœur avait des puissances. Ou peut-être que la grande sœur a voulu transmettre ce don de médium qu'elle avait parce qu'elle estimait que c'était quelque chose à transmettre, bien que ça la fasse souffrir.
Bien que ça fasse souffrir. Mais bon, il y a le problème de l'œuf et de la poule. Alors, qui c'est qui a commencé?
Oui.
Donc, on ne sait pas.
On ne sait pas.
On ne sait pas. Oui. Alors, ça, c'était la première chose que je voulais dire. Mais après, il y a les gens qui viennent voir aussi ces gens qui ont un pouvoir. Alors là, quelle est leur situation, quoi?
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Eh bien,
quelle est leur situation?
Pourquoi ils font une démarche? Et qu'est-ce qu'ils en retirent? Sinon, de la souffrance, souvent,
voilà,
puisque vous les
voyez. Il n'y a qu'à voir comment en France l'occultisme est répandu et autorisé par les pouvoirs publics. Il y a des forums de l'occultisme, il y a des salons, il y a ici et là des gens qui vivent de ça et c'est une source de revenus qui est taxée par l'État, hein, mmh. Et qui est importante. Eh bien, ces gens-là vont voir ces personnes parce qu'elles pensent que ces personnes ont un pouvoir sur elles pour qu'elles aillent mieux. De connaître l'avenir, de faire que les choses s'arrangent, de jeter un sort sur des gens. Et on peut dire qu'en Afrique, par exemple, ces choses-là se font couramment et que les sorciers sont des gens qui sont craints, mais que les sorciers savent très bien qu'un chrétien a une puissance supérieure à la leur.
Oui, on peut se défendre.
Oui.
Mais est-ce que le sort ne marche pas que quand la personne sait qu'on lui a jeté un sort? Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, je pense
que ce n'est pas si logique. Si vous me dites « je te jette un sort », aïe, je vais ressentir moi des affres et des effets. Mais peut-être que si vous jetez un sort, c'est un exemple que je prends, et que vous ne me le dites pas, je me porterai peut-être très bien.
Vous avez tout à fait raison d'insister, c'est que il y a ce qu'on pourrait appeler un combat spirituel, et la personne qui reçoit le sort en est informée, et si elle a les ressources pour résister, alors elle résiste et elle est invulnérable. Quelqu'un qui est en Christ n'est pas accessible au sort du monde invisible. Mais pourtant, dans la Bible, il est dit « Ne donnez pas occasion au diable », Éphésiens 4. Versets 26-27.
Donc,
Donc il y
se
a
tenter
une
de...
manière d'ouvrir la porte au diable, et pour moi, cette manière d'ouvrir la porte, c'est de croire au mensonge. Si on vous dit par exemple que demain vous allez avoir un accident de voiture,
Oui.
est-ce que vous allez prendre votre voiture?
Je sais pas.
Alors moi, je la prendrai. Parce que moi, je dirais, personne ne peut savoir ce qui m'arrivera demain, si ce n'est
Je sais
Dieu.
pas, parce que je voulais vous dire, je sais pas, j'en aurais besoin.
C'est ça, exactement. Hein, donc, le
Je
chrétien
voulais
ne...
pas vous mentir.
Voilà, le chrétien ne doit pas donner occasion au diable en croyant que le diable a une puissance quelle qu'il soit.
Et c'est vrai que ça fait peur, ce genre de menace.
Mais ça fait peur, mais il faut que nous vivions pratiquement notre confiance en Dieu à l'égard de ces choses. Autre chose, il y a une différence entre le fait d'utiliser la puissance démoniaque et le fait d'être possédé par le démon. J'ai eu affaire dans ma vie à une personne possédée, et cette personne-là avait demandé l'esprit de telle personne. Et
Oh
elle a
là là là
reçu
là.
l'esprit de telle personne.
Oui.
Et le pire, c'est qu'elle l'a fait dans une église.
Bon, c'était
Hein?
le lieu propice.
Eh oui. Et donc, elle avait des souffrances, ses yeux allaient à droite et à gauche sans qu'elle ne les commande, il fallait qu'elle fasse quelque chose, et elle se faisait du mal. Et on lui intimée d'aller à l'église et elle y allait, mais au milieu du chemin, il fallait qu'elle revienne. Donc c'était une personne qui ne s'appartenait plus. Et donc cette personne-là a été aidée par des chrétiens qui, au nom de Jésus-Christ, ont commandé à l'esprit de partir. Il semble que quand une personne se donne au démon, alors que quelque part, elle ne puisse plus lui demander de sortir puisqu'elle s'est donnée. Et il faut que quelqu'un d'autre
De
lui
face à sa
intime cet
place.
ordre, un peu comme l'apôtre Paul l'a fait en Actes 16, à l'égard de cette personne qui avait, comme dit la Bible, un esprit de serpent, un esprit de python.
Donc, des gens peuvent se laisser prendre pour une cause quelconque, demander donc à ces puissances néfastes, nuisibles, un pouvoir d'être à eux, quoi, effectivement. Et ils ne peuvent s'en sortir qu'au nom de Jésus-Christ, s'ils le veulent, et s'ils trouvent quelqu'un qui puisse les aider.
Et là, on est dans quelque chose d'essentiel. Si par exemple on achète une maison et que dans cette maison il y a des manifestations d'occultisme, alors peut-être que les propriétaires précédents avaient donné leur maison aux esprits et que de ce fait les esprits se manifestent. Mais pour les chrétiens, il suffit de prier au nom de Jésus-Christ et d'ordonner à ces esprits de partir. Peut-être que quelqu'un a des manifestations spirituelles à la suite de choses qu'il a faites. Et qui reviennent, et comme des coups dans la chambre, comme des voix qu'il peut entendre, comme des objets qui se déplacent, comme des objets qui tombent, hein, tout à coup, où les esprits manifestent le droit qui leur a été donné sur quelque chose. Alors là, il convient de prier au nom de Jésus-Christ pour que ces choses-là cessent. Mais si on prie au nom de Jésus-Christ, encore faut-il être clair avec
Oui,
Jésus-Christ,
il suffit de
connaître
croire.
Jésus-Christ.
C'est pas une formule magique là non plus.
On trouve en Actes 19 une personne qui a invoqué le nom de Jésus, mais cette personne-là n'étant certainement pas en règle avec Jésus-Christ, alors le démon lui est tombé dessus et l'a battu, en fait, hein. Donc il faut faire bien attention, pour conclure, parce qu'il faut qu'on conclue, il faut bien faire attention, d'une part, bien sûr, à ne pas entrer en contact avec le monde démoniaque, mais quand on y est rentré, à considérer que c'est vraiment une mauvaise chose et que nous n'avons pas à le faire,
Il y a
et
des
quand on a des
souffrances.
symptômes de ces choses qui se sont passées et de ces choses qui perdurent, alors il y a lieu, peut-être en premier lieu, de prier de manière très claire pour prendre position par rapport à Dieu, mais peut-être aussi, éventuellement, de demander à d'autres personnes de venir intervenir au nom de Dieu pour que les choses soient bien posées.
Et on se rend vraiment compte qu'on n'est pas bien.
on se rend vraiment compte qu'on n'est pas bien tant qu'on est lié à ce monde démoniaque. Et par contraste, on se rend compte qu'on est bien quand on en est libéré, bien sûr.